Est-il possible de penser, d'agir, de travailler, de vivre autrement, d'imaginer d'autres possibles et de les mettre en œuvre ici et maintenant ? Je vous propose d'aller à la rencontre de ces semeurs de graines, producteurs de nouveaux possibles qui fabriquent silencieusement un autre réel. Pour que vous aussi, vous ayez envie de croire à un autre monde. Graines de changement, c'est sur Radio Escapade, tous les premiers mardis du mois à 9h, rediffusé le jeudi à 18h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines de changement. On va continuer sur l'habitat. On avait parlé d'habitat écologique le mois dernier. Aujourd'hui, on va parler d'habitat participatif, groupé, collectif. Voilà, il y a un peu plusieurs termes pour évoquer ce sujet. On va voir qu'aujourd'hui, l'habitat participatif, ça devient une belle réalité en Cévennes où les projets sont de plus en plus nombreux. Répondant ainsi à proposer une réponse non standardisée aux attentes et besoins de chacun en matière de logement. Donc j'ai essayé de tenter de recenser les projets, j'étais assez étonnée d'ailleurs les projets qui sont en cours ou qui existent dans les Cévennes. Je voulais les citer parce que j'ai essayé de faire venir un certain nombre d'entre eux, mais ils ne sont pas tous disponibles. Alors je vais parler de Terra Maire, je ne sais pas comment on prend, à Saint-Martial, Maire, Terra Maire à Saint-Martial, Aérium au Vigan, Éco-hameau de Vabre qui, lui, existe et bien installé maintenant. Saint-Romand de Caudière, l'habitat participatif de Croix-Haute à Saint-Hippolyte-du-Fort, le projet de Bourras et le projet de Soudorgue. Voilà, je cite ceux-là que j'ai réussi à identifier. Et donc, on va parler avec trois représentants de trois de ces projets locaux. Je veux juste faire une petite intro sur comment se situe l'habitat participatif aujourd'hui en France. C'est quelque chose qui prend de plus en plus, hein, puisque je crois qu'il y a plus de 250 projets qui étaient recensés en 2013. Bon, ça paraît pas énorme, mais en même temps, c'est déjà pas mal. Nous sommes encore loin de l'Allemagne, qui est le berceau de l'habitat groupé et participatif, parce que ceci représenterait entre 15 et 20% des logements neufs, alors qu'ils étaient quasiment inexistants dans les années 90. Donc on a du retard à rattraper, mais voilà. Alors pourquoi un tel engouement pour l'habitat participatif ? Ben parce que déjà, j'ai cru comprendre que la loi avait évolué pas mal dans le sens de ces projets-là, puisqu'il y a la loi Allure qui reconnaît l'existence aux yeux de la loi. Donc ça offre un cadre légal pour les projets de cette nature-là auprès des banques, des notaires et des autres partenaires. Donc je pense que ça, c'est une avancée, on en parlera ensemble, mais je pense que ça aide quand même à mettre en œuvre ce genre de projet. Alors, j'ai identifié aussi deux types de vocabulaire, je dirais. Il y a l'habitat groupé participatif, là où on cherche à développer des projets dans lesquels le groupe, entre guillemets, habitant, endosse l'habit de maître d'ouvrage et se livre à lui-même un immeuble d'habitation qu'il aura programmé, financé et qu'il gérera. Et on parle aussi de coopérative d'habitants, qui permet à un collectif d'habitants de pouvoir devenir collectivement propriétaire et développe une réflexion sur l'accessibilité économique et sociale du logement. Donc apparemment, c'est deux démarches distinctes. L'une où on prend tout en main et l'autre où on essaye plutôt de résoudre l'aspect économique pour trouver un logement. Voilà, c'était une petite introduction pour essayer d'expliquer de quoi on va parler. Maintenant, je vais dire bonjour à mes invités. Donc, bonjour Hélène, bonjour Walter et bonjour Rémi. Bonjour. Et leur demander peut-être de parler deux secondes, de dire quel projet ils représentent. Puis après, on va faire un petit retour en arrière pour essayer de comprendre comment on se lance dans une telle aventure. Et puis après, voir un petit peu comment ça avance pour chacun d'entre vous. Voilà, je vous laisse la parole. Qui veut bien Rémi ?
Bonjour. Alors, bonjour. Je représente le collectif de l'habitat participatif de Croix-Haute à Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc, on a le projet de créer une trentaine de logements en participatif dans le quartier de Croix-Haute. On est donc, du coup, actuellement un collectif d'une une dizaine de futurs habitants. Moi, personnellement, je suis intéressé surtout pour une activité professionnelle et encore en réflexion quant à un logement sur place. Comment dire, on est actuellement dans une phase où on cherche à agrandir le collectif de manière à pouvoir combler les 30 logements. Donc du coup, un peu en recherche de notre propre identité, savoir un petit peu avec quel type de personnes on souhaite habiter, de manière à pouvoir avoir un collectif qui puisse fonctionner à terme, qui puissent déjà assurer cette maîtrise d'ouvrage dans un premier temps, et ensuite pouvoir vivre ensemble et pouvoir développer un petit peu toutes les ambitions, entre guillemets, qu'a le collectif actuellement. On a, là où on en est concrètement, on a déposé un permis d'aménager qui sera, on va savoir en fin d'été si le permis d'aménager a été accepté. On est plutôt confiant à ce niveau-là puisqu'on a des bons contacts avec les équipes techniques.
Tu peux nous dire en deux mots ce que c'est que le permis d'aménager ?
Donc du coup, ce permis d'aménager, c'est de manière à ce que sur ce terrain de 9000 m² à Croix-Haute, on puisse installer les voiries, les réseaux, alimenter tout ça et avoir 6 lots. Du coup, c'est ce permis d'aménager qui va créer 6 lots sur lesquels on va construire 6 bâtiments qui vont représenter chacun de 4 à 8 logements. D'accord. Où chaque bâtiment aura un petit collectif au sein du grand collectif qui va pouvoir gérer ce bâtiment.
D'accord.
Donc c'est la première étape qui nous permet de phaser notre projet de manière à justement donner un rythme qui nous permet de recruter actuellement et puis développer les permis de construire ensuite.
Mmh. Sur ce projet-là, il y a du bâti déjà, hein ?
Oui, il y a déjà la maison ancienne qui représente à peu près 700 m². Donc on est en train de réfléchir sur la manière vraiment dont on va l'utiliser, mais l'essentiel de cette maison va être utilisé pour des espaces mutualisés, avec par exemple une bibliothèque, un réfectoire, une salle de méditation, une salle dans laquelle on va pouvoir recevoir du public pour des conférences ou aussi qui servira de réfectoire, des choses comme ça. On est en train d'envisager son programme de manière à pouvoir vraiment faire un espace public qui puisse accueillir des personnes handicapées, donc il faut un peu l'adapter. Et on est en train de voir si on se sépare d'une partie de cette maison pour la vendre de manière à financer sa rénovation. Enfin, on est en train de réfléchir à son fonctionnement juridique, financier. Oui. Pour l'instant, c'est un peu notre travail. Enfin, d'accord. C'est un peu l'axe qu'on est en train de développer, puisque les autres, on a besoin d'étudier pas mal de questions pour avancer sur le reste.
Walter ou Hélène ?
Vas-y. Eh bien bonjour, moi c'est Walter, donc je représente les habitants qui travaillent sur le projet d'EcoHamo de Soudorgue. Voilà, c'est un projet qui a démarré, on est dans la cinquième année, et donc ça fait donc pas mal de temps qu'on bosse dessus. Le projet est sensiblement différent de celui de Saint-Hippolyte, parce qu'on travaille sur une parcelle qui était une ancienne châtaigneraie, et qui est devenue zone constructible donc il y a 5 ou 6 ans. Et la commune et certains habitants ont eu la volonté, plutôt que ça parte en petits lots pour faire des lotissements ou des maisons individuelles, de lancer un projet d'éco-hameau. Voilà, donc il est structuré sur deux types de bâtiments. Donc il y a d'une part les logements, le projet c'est 8 logements, divisé en deux bâtiments de 4 habitations chacun, qui sont répartis sur une parcelle. Et l'autre partie, c'est un atelier pour les artisans locaux, qui est lui en fin de chantier, c'est-à-dire qu'on est en train de le finir, et il devrait être livré courant du printemps, là. Donc là, on est aux finitions. On fait les cloisons, les chapes et ainsi de suite.
Et c'est les mêmes qui vont habiter. Les artisans ont quelque chose à voir avec le...
Pas tous. Il y a des artisans du village et il y a aussi des artisans qui vont avoir une maison dans les Coamos. Voilà. Et que dire de plus
Je ne sais pas. On va continuer. Hein, Hélène, hein.
Oui, ben moi je représente un collectif de personnes. On est en train de chercher à acheter un lieu vers Saint-Romain-de-Caudière. Voilà, je crois que ce qui nous a fédérés, c'est le fait que chacun ait besoin d'un lieu pour faire des choses, pour se réaliser en partie. Il y a des artisans, il y a des gens qui veulent faire de l'agriculture. Donc il nous fallait un lieu pour ça.
C'est d'abord le faire plutôt que l'habiter, en fait.
Ben, l'habiter fait partie aussi de l'histoire. Pour certains d'entre nous, il y a un besoin vraiment d'habitat, mais je crois que le besoin essentiel qui a généré tout ça, c'est quand même le besoin d'agir, le besoin d'avoir un lieu pour s'exprimer, pour faire les choses, pour les faire librement, pour les faire sans trop de contraintes extérieures, avec une envie de s'entraider. On ne veut pas vivre en communauté, mais on veut bien, par contre, avoir vraiment une implication dans un collectif. Pouvoir s'entraider sur certaines parties et pouvoir aussi s'isoler dans son intimité par moment, quoi. Voilà.
Oui, bien sûr. Oui.
Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, coopérative d'habitants ou habitat groupé. Nous, on est un petit peu sur les deux, en quelque sorte, parce qu'on va s'entraider pour le bâti. Et en même temps, on a l'intention d'être chacun chez soi.
Oui, voilà. Je pense que c'est le cas des autres projets, non ? Il y a pas de, oui. Il y a des espaces communs, mais il n'y a pas franchement de vie collective. Enfin, au-delà des espaces communs, il n'y a pas de...
Bah c'est un petit peu, comment dire, un refrain qui vient dans notre projet aussi, c'est vivre ensemble, mais chacun chez soi.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, oui.
Et avec pareil, un lieu, il y a une maison existante qu'on compte aussi transformer en espace mutualisé, quoi. Ça va être le lieu collectif, quoi. Les ateliers seront privatifs, les habitats aussi, mais par contre, la maison commune va être la maison commune, quoi. Celle où on peut se réunir, où on peut recevoir du monde, où on peut organiser des choses. Un peu la même idée que ce que tu disais tout à l'heure. Rémi, voilà, le côté, éventuellement, on pensait café-concert, on pensait débat, on pensait projection, on pensait, voilà. Faire se rencontrer des publics différents aussi, c'était ça aussi notre envie. Des gens, des randonneurs, des gens de notre famille, des copains, des gens de la commune.
On partage les mêmes idées à ce niveau-là, du coup.
Ouais.
En fait, en vous écoutant, je me dis... Est-ce qu'on peut situer dans le temps le projet de Soudorgue, il a 5 ans. Celui de Croix Haute, il a quel âge ?
C'est vraiment le lancement et les premiers ateliers, ça a été en début d'année 2013. Donc ça fait 2 ans en fait.
2 ans. Et le collectif de Près de Saint-Romain ?
Alors nous, on a 4 mois d'âge.
Mais voilà, on a tous les âges là. Donc c'est intéressant de pouvoir suivre le cheminement de ces créatures.
Ouais.
Qui effectivement, en fait, on voit que 5 ans, c'est beaucoup. Est-ce que c'est pas beaucoup ? Je sais pas, ça m'impressionne un peu.
Oui, c'est long, mais c'est en même temps. Nous, on est parti sur une démarche où, comment dire, les habitations sont destinées à des gens qui n'auraient pas la possibilité de faire construire autrement. Donc, le montage financier est particulièrement complexe parce qu'il a fallu qu'on trouve déjà un bailleur social qui était prêt à s'investir dans ce genre de démarche.
Un bailleur social, c'est monsieur qui met des sous pour que les gens puissent habiter quelque part.
Exactement.
Formidable.
Et plus précisément, si je puis me permettre, c'est plutôt une institution qui va pouvoir obtenir des financements de l'État pour justement créer des logements sociaux.
Oui, pas que de l'État, parce que il s'appelle Habitat Solidaire, il est basé sur Paris. Donc c'est quelqu'un qu'on a rencontré au travers de plusieurs, au fil des rencontres, on est tombé sur eux et il s'avère que c'est rarissime ce genre de personnes en France. Les bailleurs sociaux d'ici ne sont absolument pas intéressés par ce type d'opérations qui sont beaucoup trop petites pour eux. Et surtout placées dans des endroits qui ne les intéressent pas spécialement. Donc,
ça va venir.
Peut-être, mais en tout cas, quand on parle de moins de 500 logements,
c'est la dimension.
C'est une question de dimension, oui. Mm-hmm. Et donc, ce montage-là a été quand même assez complexe. Et disons qu'on a essayé d'avoir une réflexion globale. Le projet part d'une volonté des habitants, ce qui n'est pas forcément le cas au départ. Il y a la mairie qui possède le terrain, donc avec qui on a beaucoup travaillé. Et on a travaillé sur tous les domaines, donc le juridique, le financier, l'architectural, pour arriver à faire un projet qui génère un consensus au travers de tous les habitants du village, déjà, parce que c'est la première chose, d'arriver à montrer et démontrer qu'on peut construire autrement et que sans forcément démolir tout le paysage. Ça, c'est une volonté première du projet. Et puis après, il y a les aléas de ce genre de projet. C'est-à-dire qu'au début, on a des grandes idées, on croit que c'est simple. C'est vrai. Puis après... Après, on est soumis aux contraintes de la rapidité administrative. Et des fois, on attend 8 mois pour avoir une réponse.
Je veux dire la lenteur, en fait.
c'est comme ça que ça se passe, on va dire. On va pas critiquer les uns les autres. Mais des fois, il faut beaucoup de temps pour avoir une seule réponse qui va permettre ou pas d'avancer.
Mm-hmm.
Donc, on est un peu soumis à ça. Après, il y a toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au fil de l'évolution du projet. Mais on tient bon.
Ouais,
et la première phase est partie, elle est presque finie, donc ça rassure. C'est vrai que cet été, quand on a commencé le chantier participatif pour fabriquer des briques en terre paille pour faire l'isolation du premier bâtiment, ça a été un peu la première action très concrète de terrain.
Ouais.
Qui a donné beaucoup d'espoir et de motivation à tout le monde. Et là, le premier bâtiment est presque fini, des ateliers. Donc, voilà, on a vu quelque chose sorti de terre. Voilà, ça fait plaisir.
Oui, oui, c'est sûr. Ouais.
Voilà. Et donc là, on se recentre sur la finition du montage
financier
pour les habitations.
Mmh. Voilà. On va parler peut-être de l'aspect juridique, parce que il me semble que c'est assez compliqué, ça. Donc, avant, on fait une petite pause, et puis on revient, on reparle de ça, tout de suite. Voilà, c'était une spéciale dédicace pour Lola. Elle comprendra. Donc on en était là, on en était à dire... en fait, la question qui se pose assez rapidement pour moi, c'est comment transformer ces utopies en réalité administrative, financière, juridique. Donc j'imagine que vous êtes tous dans ces traversées-là, chacun à votre façon. Donc on peut en parler, c'est-à-dire, par exemple, la question juridique, elle ne doit pas être simple du tout. Comment un collectif peut réussir à se mettre d'accord pour trouver un statut ou une forme juridique qui convienne à tout le monde. Je sais pas, vous en êtes où par rapport à ça, Rémi ?
Eh ben, c'est vrai que bon, déjà pour dire à quoi on s'est organisé en différents groupes de travail qui permettent d'étudier les différentes questions pour faire avancer le projet. et on a notamment ce groupe de travail juridique et financier. Ouais. Alors souvent dans les habitats participatifs comme ça, ce sont pas les groupes les plus fournis.
Et,
et là, en l'occurrence, on essaie de. Bon, on a des gens dans le groupe de travail, on a des personnes qui sont très intéressées et puis même d'autres personnes qui viennent voguer un petit peu à l'intérieur pour s'intéresser à la question, voire participer à certains moments. Et on essaie d'être un maximum créatif. On essaie d'y mettre de la créativité dedans, ce qui marche assez bien. Puisque du coup, actuellement, on se retrouve avec des réflexions assez poussées sur les différents montages juridiques, sachant que comme on a un ensemble collectif pour tout le terrain, on va avoir une formule juridique pour l'ensemble, et ensuite, comme on a 6 lots à bâtir, chacun pourra choisir sa forme juridique pour son propre lot, pour son propre bâtiment.
D'accord.
Suivant sa sensibilité, ça peut être une SCI, une copropriété simplement, très classique, ou une coopérative d'habitants. Sachant que pour la coopérative d'habitants, justement, par rapport à cette loi Allure, on attend quand même les décrets d'application qui permettent d'avoir des financements particuliers depuis la Caisse des dépôts, qui changent de la banque, où la banque, on dépasse rarement des crédits à 25 ans. Avec la coopérative d'habitants, l'intérêt, c'est de passer par la Caisse des dépôts pour obtenir des financements à 40 ou 50 ans.
Oui.
Et ce qui peut éviter d'avoir à passer par un bailleur social. Mais du coup, dans notre réflexion juridique, on a la possibilité d'avoir un bailleur social. Donc du coup, on réfléchit à la manière dont on fait intervenir un bailleur social. Et c'est pareil, toujours ces questions de juridique et de financement sont liées.
Oui,
ça veut
sûr.
Dire qu'on, là, pour l'instant, on a un permis d'aménager. Est-ce qu'on fait la maîtrise d'ouvrage nous-mêmes pour l'aménagement? Est-ce qu'on prend quelqu'un qui va porter le projet, nous faire un portage financier, juridique, tout ça, machin, et nous livre les lots à la fin et on récupère tout ça en ayant pu amortir certains niveaux parce qu'on a fait un appel à un professionnel, ou est-ce qu'un bailleur social porte l'aménagement, ensuite la construction? Est-ce qu'on fait des montages où on peut permettre l'autoconstruction, donc du coup on essaie de mélanger? Est-ce que le bailleur social prend l'ensemble du projet pour la maîtrise d'ouvrage, ou est-ce qu'on partage la maîtrise d'ouvrage avec un bailleur social? Est-ce qu'on mélange des logements sociaux dans les bâtiments, ou est-ce qu'on fait des bâtiments à logements sociaux? Enfin, du coup, ça
tu
permet...
ferais pas partie du groupe juridique?
Si,
Rémi.
Un peu, <ouais. rire> Enfin voilà, c'est pour dire qu'on essaie d'avoir une forme de créativité là-dedans et de donner du corps finalement à nos envies, mais de partir de nos envies pour établir un cadre.
C'est pour ça que je parlais
juridique.
D'utopie, parce qu'en fait, quand on réfléchit à ce genre de projet, il me semble qu'on a envie au départ de que ça ressemble à qui on est et nos convictions et tout ça, et que après ça passe dans le, ça rentre dans la bouteille de la réalité, je dirais. Mais bon, voilà, au départ c'est bien, faut pas se priver de ça, quoi. Il me semble. Hein. Hélène, vous en êtes un peu là ou pas? Pour l'instant, vous continuez à rêver, vous?
Non, nous, c'est pareil. On a essayé de partir à la base de nos envies profondes. Et les personnes qu'on a pu rencontrer, les professionnels, les quelques rares qu'on a pu rencontrer, ils nous ont demandé de faire la même chose. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, la forme juridique, elle suivra.
C'est vrai.
On trouvera derrière, on trouvera la loi qui correspond à ce que vous avez envie de vivre, quoi. Mmh. Ils nous ont demandé d'aller vraiment, de fouiller, d'aller au fond, de se demander chacun vraiment où on en est avec des questions comme la propriété, par
oui,
exemple,
c'est
pas si simple que ça. On n'a pas tous le même positionnement parce qu'on n'a pas tous eu le même parcours par rapport au bien, à la propriété, au fait de est-ce que ça, pour certaines personnes, c'est rassurant d'être propriétaire, pour d'autres, c'est une pure angoisse, par exemple. On n'est pas du tout dans le même. Alors, on discute beaucoup de tout ça. Quelque part, il y a aussi nos peurs, nos inquiétudes qu'on essaye de mettre à plat, ou au moins de les formuler, de pouvoir les exprimer. Alors, tout ça, ça fait évoluer le groupe parce que. Suivant ce qu'on entend dire de l'autre, eh bien, on va aussi réajuster son positionnement. On va pouvoir l'aider à défricher son propre terrain de son rapport au bien, à la possession, à tout ça, quoi.
Oui,
on passe à la fois, si tu veux, par des questionnements, je dirais, philosophiques, et à la fois, poum, on redescend dans le super concret. Est-ce qu'il existe une structure qui puisse accueillir cette pensée, quoi?
Oui, ce projet, voilà. Et j'ai oublié de vous poser une question. En fait, pour chacun d'entre vous, les gens qui se sont réunis pour ces projets, ils se connaissaient, ou est-ce qu'il y a un noyau dur, entre guillemets, au départ, et puis après, on cherche du monde? C'est quoi l'historique humain de chacun de vos projets?
Pour Soudorgue, en tout cas, il y a un noyau dur au départ qui s'est formé. Et puis après, les gens, ça s'est fait par affinité. Les gens qui ont eu entendu parler, qui sont venus se renseigner, qui ont approuvé la démarche et qui ont voulu s'investir dedans parce que ça les intéressait. Donc ça a été assez... c'est arrivé un peu de différents endroits. Il y a des gens qui sont dans le Var, par exemple, qui sont sur le projet, qui sont venus dans les Cévennes, qui ont entendu parler de ce projet, qu'on a rencontré, et puis voilà, ils ont voulu en être. Donc ils en sont. D'accord. Et voilà, on n'a pas de, comment dire, de critères spécifiques. Ah, oui. A priori, hein. Après c'est sûr que nous on est un tout petit village qui est très dynamique mais qui est aussi fragile, c'est-à-dire qu'on a une petite école qu'on essaye de maintenir avec classe unique, donc c'est vrai que quand on voit arriver des familles avec des enfants, tout le monde est content. Ouais. C'est sûr que ça fait partie des critères, mais c'est pas le seul. Après, c'est surtout la volonté de rentrer dans ce type de projet. Nous, on a commencé, en fait, le démarrage, avant de parler de juridique, le premier document qu'on a essayé d'élaborer, c'est une charte qui correspond à tous les habitants, dans laquelle on a essayé d'exprimer toutes nos volontés. Et à partir de cette charte, on a essayé de sortir un système, un cadre juridique qui correspondait au mieux à cette charte et qui permettait de répondre aux attentes. Et donc voilà, on est arrivé à un système de création d'une, alors on ne sait pas encore si ça va être une SCI, SCIA, enfin c'est un groupement qui va être où chaque habitant sera partie prenante, ce sera une personne, une voix, et le bailleur aura aussi une voix, mais personne ne pourra prendre ni le bailleur, ni la mairie, ni les habitants n'auront la possibilité de prendre des décisions tout seul. Tout se fera toujours par collectif et au consensus, si possible. Voilà.
Rémi, tu vois l'historique du groupe, c'est quoi alors ?
Ben, c'est vraiment hétéroclite au départ. Ce sont les propriétaires du terrain qui ont lancé le projet, donc ils sont à l'origine. Donc on pourrait dire que c'est ce couple qui est à l'origine du projet. Mm-hmm. Et puis au fur et à mesure, sont venus se greffer des personnes qui ont été intéressées, puisque dans le cadre de, pour lancer le projet, il y a eu un peu de communication établie autour, aux alentours pour proposer ce projet, qui était intéressé peut venir pour voir comment ça pourrait se passer. Et on a eu rapidement des personnes depuis très loin, et c'est vrai qu'il n'y a pas de collectif vraiment à proprement parler au départ.
Au départ, oui.
Ouais. Ils se forment au fur et à mesure.
D'accord.
Aujourd'hui, on est un noyau qui, en fait, depuis ces 2 ans, ont pu se souder, on sait fonctionner ensemble. Donc on est ce premier noyau qui cherche à s'agrandir.
Ouais. Mmh.
Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le projet, qu'on rencontre, qu'on voit. Et on se rend compte que notre propre positionnement a laissé grandir notre propre collectif et déterminant finalement dans ces choses-là. De la même manière que comme tu disais tout à l'heure, Hélène, la manière dont on intervient dans un collectif est importante, puisque c'est les réflexions personnelles, quand elles sont partagées, qui font avancer les réflexions des autres. Mais là, on est dans une position où c'est l'identité du collectif qui prend une forme et dont on prend conscience. Et qu'on commence à parvenir à gérer une identité collective, finalement. Mmh. Une forme de conscience collective qui va aller plus loin, au-delà de nos individualités, qu'on a su mettre au sein du collectif jusqu'à maintenant, et qui a formé ce premier noyau.
D'accord.
Donc voilà, c'était pour cette question de caler le noyau, comment ça a démarré, qui sont les individus qui le constituent.
Hélène, tu peux nous dire en 2 mots la genèse du groupe ? C'est des gens qui se connaissent, qui ne se connaissent pas du tout, mais...
Dans le groupe, il y a des gens qui se connaissent depuis assez longtemps, qui, je pense, avaient des rêves communs de bâtir des choses ensemble depuis déjà longtemps, et peut-être qu'il nous manquait l'opportunité, en quelque sorte. Là, il y a ce lieu est venu réveiller une vieille envie pour beaucoup d'entre nous. Il y a aussi des gens qui sont arrivés dans le groupe. Enfin, on est tous peu ou prou quand même dans une espèce de rapport d'amitié ou d'intimité ou de... Ouais, voilà, de copain, c'est le copain du copain, il y a quelque chose comme ça, quoi. On est quand même dans un rapport comme ça, quoi.
Mmh.
Voilà.
Autre aspect qui me paraît important, quel est l'engagement des communes dans vos projets ? Est-ce qu'il y en a un, au moins ?
Nous, on a un soutien bienveillant, déjà.
Oui.
C'est-à-dire qu'au début, la commune cherchait à comprendre un petit peu qui on était, quel était notre projet et puis comment on pouvait se débrouiller. Il y a une sorte un peu de mise à l'épreuve quand même. On est là sur un grand terrain et puis on dit qu'on va faire un grand projet dessus. Donc forcément, j'imagine la municipalité a dû se dire, bon, quel est ce groupe, quelle est sa capacité à porter ça, surtout que ça ne se voit pas toujours. Comment ça se voit en ville, mais pas trop en milieu rural.
Oui.
Et puis au fur et à mesure, de voir qu'on avançait correctement, concrètement, que le contact s'établissait bien.
Le Père permis d'aménager, ça crédibilise un peu aussi.
Ça crédibilise, mais on a eu un bon contact aussi avec la municipalité avant d'avoir déposé le permis d'aménager concrètement. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils ont pu voir qu'on était quand même un groupe sérieux et qu'on avait des bonnes capacités. Bon, ce qui nous aide là-dedans quand même... Bon, je pense qu'on est quand même un groupe très sérieux, c'est sûr, à la base. Mais ça nous aide beaucoup d'avoir un professionnel qui nous accompagne et qui nous accompagne dans les rendez-vous auprès
c'est
des élus.
C'est qui ce professionnel, alors ?
Stéphane Singer, sur Montpellier, de Toit de Choix. Ouais. Voilà. Et qui, du coup, a l'habitude d'un contact avec les élus assez rodé. Donc, du coup, c'est comment pouvoir faire des leviers, déclencher certaines réactions ou positions.
Mais à part l'accueil sympathique que vous fait la commune, ils font quoi pour vous ?
Bah, on essaie d'établir des partenariats, déjà, d'une certaine manière, pouvoir, quand on fait des événements, pouvoir emprunter le matériel de la mairie. Mmh. On ne cherche pas à imposer un positionnement par rapport à notre projet de la part de la mairie. Déjà, le fait de pouvoir cohabiter d'une manière sympathique et puis d'avoir un regard bienveillant, nous, notre idée, c'est de pouvoir rayonner sur l'extérieur, enfin rayonner, de pouvoir avoir des activités qui vont vraiment sur l'extérieur, que ce soit loin, mais aussi beaucoup avec la commune. Donc on cherche pas à se faire remarquer particulièrement, on cherche pas à pousser la mairie à avoir un positionnement par rapport à nous, mais on cherche à faire en sorte que les choses puissent se passer de manière participative, simplement. Mmh, et je pense qu'on sait très bien, au sein du groupe, déjà on l'a vu, que pouvoir laisser de la place au collectif et pouvoir laisser de la place à l'autre, ça demande des fois du temps, donc
oui, c'est
on est prêt
aussi,
à ça.
Ouais. Mmh. Walter, vous avez... apparemment, la commune est impliquée activement.
Oui, depuis le début... Pardon. Le projet est depuis le début en partenariat fort avec la mairie qui, en fait, le terrain est municipal dès le départ. Oui. Donc, mmh. C'est une volonté municipale d'aller dans ce type de projet. Il nous accompagne depuis le début et je dirais même plus qu'accompagner parce que c'est complètement un partenariat parce que la commune est très impliquée dans ce type de projet depuis pas mal de temps. Elle a déjà réhabilité des logements, on a déjà fait de la phytoépuration pour un petit quartier du village, on a fabriqué un four à pain collectivement, tout ça. Donc il y a une démarche qui pousse dans ce sens depuis pas mal d'années, ouais, dans cette commune. Et quand l'idée est sortie de ce projet, ils ont, comment dire, on a travaillé ensemble de suite, ouais. Mmh. Et ils sont très impliqués. Et à l'heure actuelle, en fait, le principe, donc le projet, c'est se répartit sur deux parcelles. Donc il y en a une où on construit les ateliers.
Ouais.
Pardon, qui eux resteront communaux, c'est-à-dire que la parcelle reste à la mairie, le bâtiment reste communal,
ouais,
et donc à terme les loyers seront une rentrée d'argent pour la mairie, et la parcelle des habitations, elle sera vendue au groupe d'habitants via le bailleur, via une fondation, et ainsi de suite. Pour permettre de construire, et là ils cherchent pas à faire forcément de la spéculation, au contraire. Pour pouvoir favoriser l'émergence du projet, quoi, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu très bien faire des lots et vendre ça,
oui,
beaucoup plus cher.
Oui, tout à fait, tout simplement.
Et il y a réellement cette volonté d'aller dans ce type d'aménagement du territoire, quoi.
Voilà. Oui, d'accord. Hélène ?
Nous, la mairie est vraiment un partenaire aussi dans notre histoire. On est allé les voir. Parce qu'on voulait leur expliquer qu'on avait ce projet de s'installer sur ce lieu et d'y mener tout un tas d'activités. Et ils nous ont répondu quelque chose du genre « Oh, formidable ! C'est exactement ce qu'on voulait pour ce lieu-là, qu'il y ait des gens qui s'y installent, qu'il y ait des activités qui s'y mènent, etc. » Alors, concrètement, ils sont même prêts à nous aider financièrement. Ils vont acheter une partie du lieu parce qu'ils ont besoin de réserves foncières, notamment du bois, parce qu'il y a une filière bois qui est en train de se monter sur Saint-Romain-de-Caudière.
Ouais.
Donc
ouais,
la municipalité a besoin d'être propriétaire d'un certain nombre de terrains où il y a du bois. Et du coup, ils nous aident, oui, en achetant une partie de ce bien, en nous soutenant, je ne sais pas, dans plusieurs cadres. C'est eux qui ont fait les premières démarches de rencontre avec le notaire, par exemple.
Mmh.
Voilà, donc ouais, on peut dire qu'on est en partenariat avec la mairie, nous.
Mmh. Bon, on voit qu'effectivement, ça peut vraiment booster un projet qu'une commune s'y implique. Après, j'imagine que les motivations de la mairie de Soudorque, c'est aussi de remplumer, entre guillemets, le village, enfin de relancer, d'animer la vie locale de...
Oui, bon, la vie locale de Soudorgue est déjà très
animée. Oui, oui, c'est pour ça que j'hésitais en utilisant le vocabulaire. Là,
mais c'est vrai que c'est un travail de tous les instants, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut toujours être un peu sur la brèche pour arriver à voir surtout un peu à long terme, pour arriver à fixer une population sur place dans la durée. Notamment, enfin, les ateliers sont là pour ça. C'est-à-dire qu'on veut non seulement habiter, mais on veut aussi travailler sur place et créer de l'activité, donc créer de la ressource dans le village. Parce que c'est... Voilà, on ne veut pas mourir.
Bien sûr. Je crois que c'est le cas des trois projets. Il y a du professionnel et de l'habitat privé, quoi.
À Croix-Haute, on souhaite le professionnel. Bon, pour ma part, je souhaite y installer mon cabinet. Et j'aimerais bien qu'il y ait... Dans mon souhait, ce serait le fait qu'il y ait plusieurs thérapeutes qui s'installent pour créer une forme de pôle de soins alternatifs. Et après aussi, on a une personne qui est intéressée pour y créer un atelier de transformation, sachant que ça manque un peu dans le coin. Les gens doivent aller jusqu'à Génolac ou Florac, je sais plus exactement, pour faire de la transfo.
Transfo,
oui. Mais pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on a. On n'a pas encore beaucoup développé le pôle d'activité professionnelle, en fait.
D'accord. Et Hélène, je crois que c'est dominant aussi. Enfin, il y a vraiment la volonté de, comme tu disais, de travailler et vivre au même endroit, quoi.
Ouais, ouais. Et après, ce qui est rigolo, c'est que justement, nous, on a des activités très différentes. Et on se disait, pareil, vu d'un point de vue institutionnel, je pense qu'on aurait pu nous dire, mais c'est un handicap, vous partez pas tous dans le même sens. Mais nous, on voit ça plutôt comme une richesse, quoi. Le fait que certains soient dans l'artisanat et veuillent recevoir des stagiaires, que d'autres sont plutôt dans l'agriculture, mais veulent aussi pouvoir recevoir éventuellement des classes. Enfin, on se dit que ces groupes-là vont pouvoir peut-être passer d'un lieu à un autre et être à chaque fois témoins de ce qui s'y passe et de choses variées, d'activités, de métiers variés, de savoir-faire variés, en fait. Voilà. On se dit qu'on va permettre à n'importe quel individu de un petit peu pénétrer des savoir-faire et des savoir-faire variés, quoi.
Voilà. Oui, c'est
un peu ça l'idée, quoi.
Un voyage à travers plein d'expériences, quoi, vous proposez.
Ouais, voilà.
On fait une nouvelle petite pause musicale et puis on revient peut-être sur des aspects un peu plus concrets, c'est-à-dire où vous en êtes aujourd'hui et de quoi vous avez besoin. À tout de suite.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. You were black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang, you shot me down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang. Awful sound, my baby shut me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. We would always laugh and say, remember how we used to play? Bang, bang, you shut me down. Bang, hit the ground, bang, bang, that awful sound, my baby shut me down. Thank you.
Donc, retour en utopie. Non, non, c'est pas vraiment des utopies, en fait. C'est des utopies en marche. Voilà. On parlait de... Je sais plus de quoi on parlait, mais on va parler maintenant de... En fait, là où vous en êtes, et surtout de quoi vous avez besoin. Parce que j'imagine que... Bon, l'argent, on sait que, voilà, c'est compliqué. Mais... Au-delà de ça, il me semble qu'il y a certains projets qui cherchent des gens pour venir habiter, enfin des voilà. Je sais que j'en profite pour dire que dans l'éco-hameau de Terramaïr, ils ont encore de la place pour recevoir trois familles familles motivées pour s'unir au collectif et investir leur créativité sur 10 hectares de terre dans le sud de la France. Que votre situation financière ne soit pas un frein, possibilité de trouver des financements pour votre installation. Et ils organisent des réunions le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin. Et on peut joindre Fabien au 06 02 23 49 60. Voilà, j'ai passé l'annonce, c'est fait. Vous avez besoin de... Voilà, c'est l'occasion de peut-être aussi de faire appel à des gens ou à des... Je sais pas, à des renseignements, je sais pas. De quoi avez-vous besoin ?
Eh bien, du coup, financièrement, c'est vrai que de notre côté, on se trouve plutôt bien logé. On a un peu le sentiment, on dit souvent régulièrement, qu'on a le sentiment d'avoir un ange gardien. Donc du coup, un niveau financier, on a justement cette créativité au niveau juridique. On a des bons contacts avec des bailleurs sociaux. On a des bons contacts de manière générale avec nos différents partenaires. Et on a une bonne confiance sur le... Puis au sein du groupe aussi, il y a quand même déjà du financement qui est assez conséquent. Donc on a une bonne capacité, surtout que les propriétaires laissent des facilités financières pour la cession du terrain et de la maison. Donc du coup, on n'est pas sur une question financière, on est plutôt tranquille. Simplement, pour que le projet soit viable, il faut qu'il y ait plus de monde, certes, avec des finances ou des capacités financières ou des capacités d'emprunt. Sachant que, de nouveau, suivant les modes de gestion juridique, on change les modes de gestion financière aussi. Une coopérative d'habitants en ayant des crédits à 40 ou 50 ans par la Caisse des dépôts permet d'avoir des loyers corrects pour des personnes qui souhaitent investir, dans le collectif. Donc du coup, on est sur... Plus que de chercher à aller plus concrètement dans notre projet actuellement, on cherche à pouvoir agrandir notre collectif de manière à ce que, on est sensible au fait de pas donner trop de formes déterminées à notre projet, de manière à ce que les gens qui viennent nous rejoindre continuent à former l'identité de notre collectif. Donc actuellement, on en est là. On croise beaucoup de personnes qui sont intéressées par le projet. On peine un petit peu actuellement sur ce recrutement, on est un petit peu sur en patinage, on a un petit peu du mal à embrayer, on est en train de faire notre expérience par rapport à ça pour voir la manière dont on peut accueillir des personnes, quelles sont les personnes qui nous correspondent ou quelles sont les personnes qui correspondent au projet, la manière dont elles peuvent s'investir dedans et la manière dont elles peuvent nous rejoindre. Mais on a des très bonnes pistes parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées, on a des retours de toute la France et des personnes qui sont très intéressées, qui ont envie de nous rejoindre. Puis c'est vrai qu'on a le terrain est quand même en bord de route, on est entre Dia, Super U et puis une barre HLM, même si le quartier de Crotte est,
non, mais
est
là,
vraiment
tu,
très charmant.
Tu nous dégrises totalement là. Bah,
ouais, mais en même temps, c'est souvent on a une communication entre le site internet, un peu la manière dont on peut communiquer de manière comme ça, où les gens sont très intéressés. Puis finalement, on a oublié de communiquer là-dessus, dire oui, on a une route juste à côté, deux grandes surfaces et une barre HLM. Bon, le quartier Crotte est super sympa, mais le terrain est aussi sur une zone particulière, quoi. Et souvent, les gens sont très enthousiaste en arrivant, puis finalement ils repartent en se disant avec la route on sait pas trop finalement. Donc c'est pareil, une manière de communiquer un peu à développer de manière à être plus claire et à ce que les personnes sachent où ils vont en arrivant.
Hélène,
de quoi vous de en quoi êtes on aura, on aura ouais. besoin, je pense que
vous êtes au complet dans votre groupe,
hein. Oui, alors nous, parce que nous, le lieu montagne oblige, je veux dire, au niveau de l'espace, il y a un moment donné où il faut qu'on arrête de grossir, à l'inverse, enfin,
oui,
parce qu'il y aurait un manque d'espace. Je vois juste, moi, une chose à laquelle je pense, et on a reçu deux personnes différentes qui sont venues nous aider justement par rapport aux structures juridiques et financières là. Je pense que voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous manquer, c'est de voir encore plus de gens, de rencontrer encore plus de monde pour avoir d'autres conseils, d'autres points de vue. Voilà, ça me... Enfin, je vois, justement, j'espère qu'on va pouvoir rester en contact, nous trois, et s'échanger un peu des points de vue, des conseils, des choses comme ça. Parce que ça, c'est jamais en trop, quoi.
Ah oui, non,
c'est toujours
sûr,
bienvenu, je trouve.
Et Walter, alors ?
Oui, ben, nous, on est en recherche encore de couples, on va dire, parce que l'histoire du projet a fait qu'il y en a qui ont été obligés de se désister.
Ah oui, c'est la durée, c'est ça ?
Oui, ouais. Mais c'est pas que la durée, c'est que dans la vie, il y a des soucis qui arrivent à droite et à gauche. Donc, il y en a qui ont été obligés de se retirer du projet. Donc, il nous reste deux logements vacants, voilà, et on serait heureux de...
Deux logements, d'accord.
Ouais. Oui, de logement, et on serait donc heureux d'accueillir deux familles en plus. Alors, nous, on a trois types de logements. Il y a du locatif, de l'accession progressive à la propriété et de l'accession directe.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est histoire, ça correspond aussi à une sorte de mixité sociale qui est une volonté de départ, c'est-à-dire de pouvoir donner la possibilité à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder progressivement. Et c'est vrai que là, on rechercherait plutôt des gens qui seraient en accession directe.
Oui, c'est ceux qui sont les plus rares, en général.
Non, pas forcément, mais disons que ce n'est pas forcément ceux qui sont directement intéressés par
ce genre de projet.
Mais bon, il y a de tout, et je pense qu'on les trouvera, parce qu'on en a rencontré qui, eux, se sont désistés. C'est bien dommage. Mais voilà. Et nous, on en est pour le moment, on est en train de finaliser une sorte de plaquette en 8 pages de présentation globale du projet au sein du village, qui va nous permettre de faire des recherches de fonds participatifs, qui va nous permettre de faciliter l'élaboration du projet au niveau financier surtout. Mmh. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre, et il faut qu'on arrive à débloquer la situation à travers ça, parce que tout le monde a ses contraintes, et à un moment donné, il faut arriver à passer un cap. Et ce cap, il va être franchi grâce à un apport financier qui permettra d'aller jusqu'au bout, quoi.
Tout à fait. Voilà. Je voulais vous poser une autre question. En fait, à chaque fois que je vous écoute, il y a à peu près 15 questions qui m'arrivent. Ah, Rémi me fait signe.
Oui, je voulais peut-être juste finir un petit peu sur la question de ce recrutement pour exprimer une chose qui est quand même quelque chose où on a le sentiment quand même qu'on est porté par quelque chose dans notre collectif. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les solutions se développent au fur et à mesure qu'on pose nos questionnements et qu'on recherche. Et face à l'ampleur de recruter entre guillemets, hein, parce que c'est pas du recrutement, mais pouvoir communiquer à ce que auprès des personnes qui souhaitent nous rejoindre, voyant que en zone rurale comme ça, on n'est pas non plus en milieu de tension immobilière avec vraiment des volontés où il manque du logement et avec beaucoup de personnes qui souhaitent venir vivre à Saint-Hippolyte au départ. On a cherché des solutions de communication, et justement ces travaux en réseau qui sont liés, ne serait-ce que pour la communication, communiquer autour des autres personnes, mais aussi communiquer entre projets, de manière à peut-être justement un projet peut-être convient peut-être plus à un type de personne, et un autre projet va moins convenir.
Pouvoir raisonner à ce niveau-là. Un cheminement à travers les projets pour. Faut pas perdre les gens qui sont dans ces démarches-là, quoi.
Enfin, oui,
perdre,
entre guillemets. Ou qu'elles puissent trouver
une réponse.
Une voie sur laquelle il leur plaît de marcher. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, en fait, on s'est lié à l'association Colibri, qui lance un projet Oasis cette année. C'est-à-dire, c'est de créer... Colibri a l'ambition que d'ici 5 à 10 ans, des centaines d'oasis soient développées en France. Actuellement, il n'y en a que quelques dizaines. Et ce sont des lieux d'accueil à vocation écologique, de transmission, et vraiment avec une autonomie alimentaire et une vocation très humaine, en fait, où... Enfin, c'est le projet Oasis, ça va être super intéressant de voir quand ils vont vraiment démarrer leur communication autour de ça. Et avec Croix Haute, on s'est vraiment investi dans ce projet-là. Donc du coup, on fait partie des 10 projets que cette année Colibri se propose d'accompagner avec de la formation, des diagnostics et de l'aide. Nous, on leur a demandé surtout une aide pour la gestion de collectif, puisque du coup, on va passer de 10 à peut-être 60 personnes à un moment. Donc il faut avoir des outils quand même collectifs pour pouvoir gérer et que les choses soient fluides et tournent bien. Et donc du coup, on s'est investi là-dessus. Et au niveau communication, donc du coup, on est là actuellement, on freine un petit peu au niveau du collectif parce que la direction opérationnelle de Colibri nous dit d'ici quelques jours, on va envoyer une communication sur notre réseau Colibri sur toute la France, donc quelque chose comme 80 à 100 000 personnes sur toute la France directement pour dire voilà, on accompagne votre projet et on met en avant votre communication. Donc nous, on n'est pas en train de dire au contraire.
Tu dis plus rien jusqu'à la fin de l'émission, Mamie.
Pardon.
Tu dis plus rien jusqu'à la fin de l'émission.
Oui. Tu veux dire par là?
Non, mais je veux dire que comme il ne faut pas trop communiquer sur le projet, donc parce que ça va être fait par Colibri bientôt, c'est bon.
Dessus, bien sûr, et on est très intéressés là-dessus.
Juste pour rebondir sur cet aspect-là des recrutements, entre guillemets, est-ce qu'il y a des... Comment dire, les notions d'intergénération, moi ça me paraît important dans ces projets-là, qu'on puisse faire cohabiter des expériences différentes, des envies différentes. Est-ce que c'est un paramètre important dans vos projets? Enfin, on ne le gère pas forcément, on ne peut pas formater ça comme ça de manière très rigide, mais est-ce qu'il y a comme ça une volonté de mélanger les âges, les vécus, les expériences? Il y a des jeunes, des moins jeunes, voilà, je sais pas.
Bah oui, quand un groupe se forme, c'est rarement une tranche d'âge identique qui répond. Hein. Je veux dire, nous, dans notre projet, les plus jeunes ont 25 ans et les plus âgés approchent la cinquantaine. C'est vrai qu'on avait une démarche pour aller vers aussi de faire un logement un peu plus spécifique pour qu'ils puissent accueillir des personnes soit en difficulté, soit âgées et qui veulent s'installer dans un lieu où il y a plus de monde et pas rester excentré dans son ancien mas. Après, oui, de toute façon, je pense que c'est la volonté de tout ce type de projet de renouer justement avec les liens sociaux qui sont souvent très 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 formatés. Non, on vit ensemble, on vit avec les gens et qu'ils soient jeunes ou vieux, je crois que chacun a apporté quelque chose à l'autre. Et le groupe se forme naturellement, mais je crois que chaque génération a sa place dans ce type de projet. Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que Hélène, tu...
Moi je trouve ça souhaitable aussi. Après, on fait un peu... comment dire, on ne peut pas tout choisir et on ne peut surtout pas choisir... d'accueillir quelqu'un sous prétexte qu'il a l'âge voulu, enfin je sais pas comment dire, c'est...
Oui, je comprends.
Voilà,
bien.
Nous dans l'histoire, je trouve que c'est déjà pas mal, il y a quelqu'un qui est dans les 65 ans, d'autres qui ont dans les 39 ans, et ceux qui ont autour des 40, ils ont des enfants qui vont atteindre bientôt l'adolescence, donc tout ça, ça va quand même faire une espèce de mix intergénérationnel qui sera déjà, je crois, sympathique.
Rémi ?
Ben, vu la dimension de notre projet, c'est sûr qu'on souhaite une mixité. Actuellement, le groupe a quand même une tranche d'âge assez élevée, ou avec pas mal de personnes entre 50 et 70 ans, je pourrais dire. Donc, ils craignent un petit peu de pas réussir à recruter des jeunes, à faire venir des jeunes, à pouvoir avoir un bon contact avec eux. Ils comptent un petit peu sur moi là-dessus, puisque je suis un peu le plus jeune du groupe. Mais évidemment qu'on souhaite une mixité, c'est aussi ces zones de le territoire géographique de Saint-Hippolyte en tant que zone de transition où il n'y a pas forcément d'activité professionnelle qui nous pose un peu un challenge à ce niveau-là. On mise un peu aussi sur notre envie de diversité autant générationnelle que de parcours de vie, que d'individus pour créer ce projet-là. Et on trouve il y a beaucoup de personnes qui arrivent justement, qui commencent à s'intéresser à notre projet avec des parcours de vie très différents, autant autour du bâtiment que d'autres choses.
Je crois que voilà, on fait une troisième pause musicale et puis on va conclure après tous ensemble.
Bara suwa yo, omoni ala wana mama keni da wo. Bara suwa yo, omoni ala wana mama keni da wo. Dara
Ah ben on reprend, donc voilà, j'étais en train de discuter avec mes invités, ils sont passionnants, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Donc il nous reste quelques minutes pour conclure. Non, ils me font nom de... Mais vous êtes désagréable ce matin, non mais franchement, si, il nous reste quelques minutes. Donc pour conclure, on dit quoi? La suite c'est quoi pour vous? Vite fait là, hein, vous, parce qu'apparemment moi je... Hein, voilà. Donc la suite c'est quoi pour
vous? Donc vite fait, on s'est proposé un point de faire un point le 30 juin sur notre capacité à continuer notre projet et qui va dépendre du nombre de personnes qui seront présentes dans le collectif ou qui seront en train de rejoindre le collectif à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce point à l'entrée de l'été, à l'arrivée des vacances, est-ce qu'on continue le projet ou pas? On en est encore là.
Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais.
Sachant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on a tout en main pour pouvoir le continuer. Tout ce qui nous manque maintenant, ce sont les personnes qui vont compléter ce collectif.
Bon, alors, vous avez entendu, hein? Walter.
Pour nous, concrètement, on va boucler la première phase qui est donc l'atelier. Par une communication extérieure, on va commencer à faire visiter le bâtiment, le présenter aux institutions, à un groupe d'architectes. Ça va se passer courant avril. Le recrutement donc de ces deux familles qui va être importante, et puis le bouclage financier de la partie habitation qui doit être faite incessamment sous peu, pour arriver à passer à la phase construction le plus tôt possible.
Voilà. Vous avez tous des sites internet, hein. Je mettrai sur le blog de l'émission les adresses de vos sites internet et éventuellement des contacts si c'est possible. Voilà. Hélène.
Nous, on en est à rencontrer des gens de l'extérieur pour nous aider à bâtir ou à finaliser certains de nos bâtis. On doit rencontrer quelqu'un de la DDTM comme ça, qui va nous aider à faire des plans, qui soit au plus près de la loi existante. On va rencontrer le notaire, bien sûr. On continue de rencontrer de loin en loin quelqu'un qui nous aide à poser les statuts de notre structure juridique, qui nous dit ça c'est possible, ça faudrait revoir. Ouais. Voilà. Mmh. On en est là, nous. Et après, site internet, on n'a toujours pas, mais on est sur le point de le bâtir.
Bon, vous nous laisserez en contact quand même.
Tout à fait, avec plaisir.
Je voulais juste dire, avant de conclure, qu'il y a une... Il y a les troisièmes rencontres de la Bita participatif, les 2, 3, 4 juillet à Marseille. Donc voilà, c'est rencontre nationale. Qu'il y a les 3, 4, 5 juin et 2, 3 juillet, il y a... à Montpellier, des sessions d'introduction à la conduite de projets d'habitat participatif. Donc c'est en 5 jours, donc 3 en juin et 2 en juillet. Et voilà, donc s'il y a des gens que ça intéresse. Et puis donc je laisserai les coordonnées des projets et pas uniquement de ceux qui sont invités. Ah, Rémi, c'est quelque chose?
Oui, c'est juste du 14 au 17 mai, il y a les journées internationales de l'habitat participatif, justement, où c'est l'occasion de rencontrer des projets.
Où ça?
Sur tout le territoire français et européen.
D'accord, entendu. Voilà, donc, de toute façon, on en reparlera de ces projets. On va pas laisser ça comme ça. Je finis par ma petite phrase de conclusion et je laisse la place à Fred. Donc, pour conclure, je voulais vous dire que le ciel sait, la terre sait, tu sais et je sais. Bonne journée. Est-il possible de penser, d'agir, de travailler, de vivre autrement, d'imaginer d'autres possibles et de les mettre en œuvre ici et maintenant? Je vous propose d'aller à la rencontre de ces semeurs de graines, producteurs de nouveaux possibles qui fabriquent silencieusement un autre réel. Pour que vous aussi, vous ayez envie de croire à un autre monde. Graines de changement, c'est sur Radio Escapade, tous les premiers mardis du mois à 9h, rediffusé le jeudi à 18h.